dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier. Aujourd'hui, Dissonance nous donne à entendre une multitude de voix, des voix qui vont donner corps à l'histoire d'un projet inespéré, la publication du périple d'un jeune exilé.
Le titre du livre, c'est « Ma traversée ». L'auteur se nomme Zoumana Kone, l'éditeur, c'est Champ d'Ortie, et il est en librairie depuis le mois d'octobre 2025.
Voici ce qu'on peut lire en quatrième de couverture.
Après une enfance traditionnelle en Côte d'Ivoire, rien ne prédestinait Zoumana à devenir un migrant. Pourtant, à peine adolescent, son destin bascule. Sans le savoir, il entre dans l'engrenage incertain de l'exil. Dès lors, un vent puissant et mauvais le ballotte d'un endroit à l'autre, l'exposant à mille vexations et dangers sans qu'il n'ait plus le moindre contrôle sur sa vie. En dépit de la mort qui rôde, un chemin fait de hasard se dessine. Au bout de celui-ci, l'espoir semble poindre. Zoumana Kone nous livre un récit autobiographique puissant pour sa première publication. Ma traversée est une véritable odyssée de notre temps, un témoignage d'une force peu commune. Une leçon de vie, de courage et d'abnégation. Une voix humble qui s'offre en écho à toutes celles qui demeurent dans le silence de l'exil, derrière le qualificatif déshumanisant de « migrant ».
Replongeons-nous en 2021.
Il vient juste de neiger. Et une couche poudreuse recouvre les rives du petit lac, en bordure duquel est situé l'Anse du Lac, un site géré par la Ligue de l'Enseignement et qui héberge la MEX, une structure qui prend en charge les mineurs non accompagnés, enfants de l'exil. Ce lieu d'accueil niche au cœur du vaste plateau dénudé du Lévézou Aveyronnais.
Nous partons à la rencontre de ces jeunes mineurs exilés pour leur proposer de les aider à animer des émissions radiophoniques. Discussions, échanges, l'idée est acceptée. Une équipe d'apprentis chroniqueurs, encadrée par les éducatrices de la MEX, va ainsi se retrouver chaque mois pour fabriquer un sommaire d'émissions, un conducteur, pour s'enregistrer souvent et diffuser en direct depuis les studios de la radio locale Radio Sainte-Afrique.
Alors bonjour à tous. Nous sommes à notre quatrième émission, nous sommes présentement dans les locaux de la radio Saint-Af. Je suis avec tous mes invités.
C'est là que Dissonance rencontre Zoumana Kone, l'animateur de cette émission qui porte le joli nom « Être né quelque part ». Son dynamisme, sa constance à suivre le projet et à l'animer en font une personne ressource. De mois en mois, de rencontre en échange, des liens d'amitié finissent par se tisser.
Nous sommes frappés, encore aujourd'hui, par la volonté de Zoumana Kone à avancer et à construire un avenir qui semble loin d'être tranquille au vu de la xénophobie ambiante.
Mais à la fin de l'hiver 2022, alors que ses frimas n'en finissent pas de quitter les terres aveyronnaises, l'humeur de Zoumana s'assombrit.
Lors d'une de nos retrouvailles radiophoniques, il nous fait part, sans que nous ne lui demandions rien, de son mal-être. Il décide alors, sur les conseils d'une éducatrice, d'écrire. Et nous recevons un jour ce SMS.
« Ça y est, j'ai écrit. J'ai noirci plusieurs carnets où j'ai déposé toutes mes idées noires, tout le récit de ma courte vie. »
Nous sommes heureux pour lui et nous lui proposons, s'il en est d'accord, de nous lire son récit.
Pas de réponse immédiate. Nous savons que ces écrits ne sont destinés qu'à lui et qu'il allait mettre du temps, ou pas, à nous les partager, ou pas.
Étant devenu majeur, il quitte le centre d'accueil et nous invite dans le petit studio où il loge, dans le sud Aveyron.
Et là, assis à côté de lui, il ne nous lit pas son texte. Il choisit plutôt de nous évoquer sa vie et son exil.
Nous lui demandons si ça ne le dérange pas que nous l'enregistrions. Il accepte. Et l'enregistreur de dissonance capte les mots de Zoumana, des mots qui disent sa petite enfance en Côte d'Ivoire, ses parents, des mots qui disent son petit frère, ses amis décédés, ses rêves de devenir avocat, professeur ou journaliste, et des mots qui disent sa traversée de l'Afrique du Nord, de la Méditerranée, jusqu'à son arrivée ici en France. De cet échange, en accord avec Zoumana, une émission voit le jour. C'était en 2023.
Dissonance.
Moi, souvent, quand j'entends, vous venez profiter de la France, vous venez profiter de. Moi, c'est quelque chose qui me fait très mal parce que moi, j'avais jamais imaginé un truc de ce genre. Jamais de ma vie. Tu vois? Et c'est très compliqué. Souvent, quand. C'est très. C'est dur, ça. Souvent, ça me. C'est comme ça.
Très émouvant ce que tu racontes. Tu as une vie terrible.
Et donc, je vais pas rentrer dans tous les détails.
Non,
il y a des trucs. Quoi, quand je le dis, ça me. Je sais pas, ça me stresse encore. J'essaie de.
D'évacuer,
d'oublier. Il y a des trucs encore que je. Mais dans le roman, tout est un peu écrit. Mais ça va.
J'espère que tu arriveras à le publier, ce roman, un jour.
J'espère.
C'est pas un roman, c'est un documentaire.
Un document, ouais. Quand tu fais le mal, tu vas le payer. Tu vois? Donc, dans ma vie, j'essaie d'avancer comme ça. Et j'essaie de toujours, on ne peut pas être parfait à 100%, mais j'essaie de toujours faire attention à tout ce que j'ai fait et tous ceux qui me font du bien et ne pas les oublier. C'est pourquoi partout où je passe dans ma vie, j'essaie de laisser toujours des trucs positifs pour que le jour où je reviens, on ne sait jamais, pour ne pas qu'on me rejette. Quoi. C'est comme ça. Ma vie un peu.
Une émission qui rencontre une forte écoute. Suite à sa diffusion, une structure associative lui propose d'intervenir dans un collège, devant des élèves de 4e. Zoumana Kone accepte.
Et le plus important, c'est ça, l'amour. Tu vois, l'entente, l'entraide, la solidarité. Bon, comme on appelle, pas de discrimination, comme on dit. Aujourd'hui, je suis là. C'est une chance.
Une belle conclusion.
La Foi en Plus, c'est sur Radio Saint-Afrique.
Alors, tu viens d'intervenir auprès des enfants des 4e du lycée Jeanne d'Arc à la suite de la diffusion d'un film. C'était quelque chose que tu avais déjà fait ?
Non, c'est la première fois. En tout cas, c'est vraiment, c'était émouvant. Me voir devant des enfants, au moins plus de 60 personnes, en tout cas, franchement, c'est émouvant. Et le plus important pour moi, c'est de sentir en eux aussi que vraiment, ils étaient la concentration, l'envie d'écouter. J'ai senti qu'ils étaient touchés énormément et ça fait plaisir.
Oui, plusieurs sont venus te voir à la fin pour te saluer,
effectivement,
te prendre dans les bras.
C'est ça.
C'est chaleureux.
Et c'est ce qu'on recherche toujours, tu vois. L'harmonie et l'entente et surtout la solidarité comme ça, ça fait plaisir. Et lorsque tu travailles avec des situations pareilles et certains le partagent avec toi, et c'est émouvant.
Tu es. Le long des quais, le long des villes, de quart en quart, tu essaies de t'enfuir et tu traînes toujours la même histoire. Tu as marché sans t'arrêter, loin de ta vie, loin du passé qui te poursuit et tu avances seul dans le soir. Les jours précaires, les rêves des fées, toutes ces misères, ces cris glacés sont derrière toi. Ce soir, t'y vas. Mes amis, ciao, ciao. ciao, ciao, mon pays, ciao, ciao, ce soir je pars. Les jours gris, ciao, ciao, mon frère, ciao, ciao, mes amours, ciao, ciao, vers mon histoire. Toutes ces frontières de barbelés, tous ces cercueils de liberté, déchirent à peine et crachent sur la flamme de ton espoir. Tu voudrais vivre la vie, la vraie, celle qui enlace la dignité, loin du vacarme, et tu chantes toujours ton désespoir. Les jours de guerre, le cœur brisé, les nuits de peine à chavirer sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis, ciao, ciao, mes projets, ciao, ciao, mon pays, ciao, ciao, ce soir je pars. Les jours gris, ciao, ciao, oh, mon frère, ciao, ciao, mes amours, ciao, ciao, vers mon histoire.
Traversée
de Zoumana Kone
sur Dissonance. En 2024, avec Chantal Bralet-Pons et Marie-Emmanuelle Héroard-Malavergne, il participe à la création d'un spectacle sur l'exil dans lequel il lit des extraits de son carnet.
Petit à petit, le jour s'est levé. Un brouhaha impénétrable nous a couverts. Et quasiment en même temps, le bateau s'est arrêté d'avancer. Et c'est là que j'ai vu l'homme qui menait le bateau pleurer. On a tous compris alors que c'était fini. L'un de mes compagnons infortune avait avec lui le petit téléphone de portable remis par le passeur. Il s'est mis debout dans l'embarcation et est arrivé à trouver du réseau. Il y avait juste une barre. C'était un signal très faible. Il a essayé d'appeler, mais rien n'est passé. Tout à coup, il est venu à l'idée d'appeler le 112, le numéro d'urgence internationale pour les secours. On ne sait jamais. C'est Youssouf, lors de nos échanges, me l'avait donné. Et ce numéro est resté gravé dans ma mémoire. J'ai pris le téléphone et j'ai essayé d'appeler. Et tout à coup, on a entendu parler quelqu'un. En décrochant, je lui dis que nous étions en perdition. En pleine mer. Peu de temps après, on a vu arriver un bateau de secours, mais la mer était tellement démontée qu'on n'a pas pu nous rattraper. Et c'est là que nous avons vu le bateau faire demi-tour. Il nous a fait savoir par un haut-parleur qu'ils allaient chercher un bateau plus puissant. Et nous avons attendu, ballottés par les vagues, perdus dans le brouhaha, pendant des heures. Le silence régnait sur le zodiaque. Chacun acceptait le destin qui allait nous être réservé. Mourir noyé ou récupéré par les secours maritimes.
Touché par son récit, certaines personnes l'incitent à le publier. Il est envoyé à une maison d'édition.
Le texte de Zoumana, comme on reçoit d'autres manuscrits sur la boîte mail de Chandorty.
Béatrice Guillemard. co-responsable des éditions Champ d'Ortie.
Et donc on l'a lu, et tous les trois, on a été frappés vraiment par la vérité de ce texte, sa force. Zoumana est à la fois très franc dans ce qu'il a ressenti, dans ce qu'il a vécu, et en même temps assez pudique, enfin, ce qui est très compréhensible quand on a vécu des choses aussi dures, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément rentrer dans les détails des choses terribles qu'il a vécues, mais il ne cache pas la vérité. Et ça, ça nous intéressait beaucoup pour publier pour la jeunesse. Parce que c'est vrai que pour des jeunes voilà, vivant en France qui n'ont absolument aucune idée de ce que peut être le parcours d'un migrant, c'était très important qu'ils puissent être touchés par ce récit. C'était vraiment ça qui nous intéressait aussi. Ce n'est pas un roman comme on a l'habitude de publier, c'est un récit et on insiste sur la différence. C'est-à-dire que c'est réellement ce qu'il a vécu, c'est pas une histoire inventée. Et on voulait que les jeunes puissent découvrir ça, mais en même temps, c'est vrai que par exemple sur la Libye, Zoumana ne rentre pas dans les détails. Il explique que ça a été très difficile, qu'il était en prison, voilà comment est-ce qu'il a réussi à s'en échapper, mais il ne va pas dire tout ce que les prisonniers là-bas subissaient. Donc voilà, c'est, pour nous, c'était un texte très très précieux. Et un auteur très différent de ce qu'on avait l'habitude de publier. On avait vraiment envie de faire très attention à lui. Voilà, on a travaillé avec lui le texte, mais c'était encore, de manière encore plus, bienveillante et attentive qu'avec d'autres auteurs. Parce que ce n'était pas un roman. Zoumana est vraiment quelqu'un de très attachant, une personnalité extraordinaire, quelqu'un de très ouvert, de très positif, et qui réfléchit énormément à la vie. Je pense que d'ailleurs ça l'a beaucoup porté pendant tout ce périple et toutes les épreuves qu'il a vécues, parce que il a toujours envie, voilà, de positiver, de voir le bon côté, de vouloir avancer. Et de vouloir réfléchir aussi. Dès qu'on rencontre Zoumana, c'est ce qui frappe le plus, quoi. C'est la sagesse qu'il a acquis et le recul qu'il a sur tout ce qu'il a pu vivre.
Alors, on l'a choisi déjà parce qu'il y a une belle qualité d'écriture. Fred Maurice, co-responsable des éditions Champ d'Ortie.
Zoumana sort un talent certain de conteur, hein, comme on trouve beaucoup de conteurs en Afrique. Et il a su mettre ce talent de conteur au service de l'écriture, de son écriture et de son texte. Et c'est à la fois une écriture qui est simple, ce qui est le plus dur à atteindre, selon moi, en littérature, et une écriture très forte en même temps. Pour ce qu'il a vécu, il a su vraiment le retranscrire de manière simple et puissante en même temps. Au-delà de ça, Champ d'Ortie est une maison d'édition qui aborde des thèmes de société, qui est engagée à sa façon, d'un point de vue social, écologique. Et le thème de l'immigration, tel qu'elle est vécue aujourd'hui par les migrants, nous intéresse aussi, est raconté par quelqu'un qui a vécu un périple. On parle d'Odyssée dans la quatrième de couverture parce qu'il y a une forme d'Odyssée, on va pas dire homérique, mais quelque part à travers toutes les épreuves qu'il a pu traverser, Zoumana. Et surtout parce que le thème de la migration et des migrants aujourd'hui est abordé dans les médias un petit peu comme des faits divers, malheureusement. Il y a les rubriques des accidents de la route, des faits divers... divers et variés, et puis les migrants. On en entend parler quand des migrants se noient en mer. Ce thème déshumanise fortement ces personnes qui font le choix ou qui, à un moment ou à un autre, comme c'est le cas pour Zoumana, ont été amenés à migrer. Certains malgré eux, d'autres volontairement. Pour certains, c'était un choix. Et donc, ça permettait vraiment d'humaniser les migrants à travers le discours, enfin le texte de Zoumana. Donc ça nous intéressait aussi. Après, bon, c'est vrai que nous, on publie surtout des romans. Donc là, c'est la première fois qu'on publie, parce que c'est actuel, qu'on publie un témoignage, un récit, mais qui a été écrit par un tout jeune homme et dont le périple commence lorsqu'il avait 15 ans. Donc ça touche aussi, je pense, les plus jeunes. D'ailleurs, il a eu l'occasion de faire une rencontre récemment avec des collégiens, et c'est vrai que ça les a profondément touchés. Donc, tout correspondait pour que ce choix entre dans une de nos collections. Et voilà, donc le livre est paru tout récemment et il commence à vivre sa vie. Et on espère qu'à travers son texte, les personnes qui ont une vision floue des migrants pourront en avoir une vision quelque peu différente et concrète également.
Nald Kib, illustrateur pour le livre « Ma traversée ».
Et d'autant plus que ce sont des histoires que moi je voyais à travers les médias. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas aider et en même temps participer à quelque chose de concret, de réel. Et ça m'a poussé à pouvoir, d'une part, de lire, de prendre connaissance du livre, et après de pouvoir développer des images, pour les mettre être en rapport aussi avec Zoumana Kone. Et je me suis vraiment presque engagé parce que je voulais à un moment donné, de ma petite carrière d'artiste, me dire que je pouvais participer aussi à illustrer des livres, des images, une histoire. Moi, je suis d'origine africaine, congolaise, donc j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas, donc je connais bien l'Afrique. Et le fait qu'on puisse parler d'une histoire, des exilés, ça me touche parce que dans mon entourage, j'en connais, et puis j'ai aussi eu quelques parents éloignés, on va dire, qui ont fait des traversées.
Le livre paraît le 3 octobre 2025. Françoise, une des toutes premières lectrices du livre de Zoumana Kone.
J'ai été frappée. Et Zoumana, donc je le connais, je l'ai rencontré en tant que jeune homme, en tant que personne, et je n'imaginais pas tout ce qu'il avait pu vivre, mais j'ai trouvé que dans son écriture, il y avait beaucoup de bienveillance, pas de rancœur, pas de haine, et pourtant, lorsqu'on lit ce qu'il a pu écrire, toutes ses souffrances, tout son vécu, il reste digne. C'est quelqu'un qui arrive à rester debout, humble malgré toutes ses blessures. Il en a quand même subi un certain nombre, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Et j'ai beaucoup aimé en fait son livre parce que c'est une écriture en fait qui est sans fioritures, sans figure de style, et qui va droit au but, en fait, droit où il veut aller. Même si la vie ne lui a pas toujours souri, il a décidé de sourire à la vie, Zoumana. Et lorsqu'on le rencontre, c'est la première chose qu'il affiche, en fait, son sourire. Même si derrière, il y a beaucoup de souffrance et de tristesse, et ben, il a réussi à rester dans la lumière. Oui, il s'apitoie pas sur son sort, il a envie d'avancer.
C'est l'orphanou qui vous parle de son exil. J'ai fermé ma porte au monde car devenu trop hostile. Chaque jour qui passe me confirme ma théorie. Cette société malade est à l'agonie. Les gens courent après l'argent, oublient l'humanité. Les réseaux sociaux remplacent la fraternité. Tout est faux, tout est chaud, personne n'est sincère. Je me suis barricadé chez moi pour plus subir cette misère. Mes idéaux, mes rêves, tous tombés à l'eau. Un loup solitaire fuyant le troupeau. Alors je me suis renfermé, éloigné de cette mascarade, préférant la solitude à vos jérémiades. Je cherche l'harmonie, loin de leur folie. La paix intérieure dans la mélancolie. Même isolé du monde, je garde espoir en vie. L'orphanou en quête du bonheur de l'utopie. J'observe de ma fenêtre planète, cette humanité perdue. Consumérisme aveugle, valeur disparue. Où sont passés l'amour, le respect, la compassion, remplacés par l'ego, la haine et la compétition. Les médias nous mentent, les politiques nous trahissent. L'art véritable meurt tandis que les faux s'enrichissent. Moi j'ai dit stop, j'ai coupé les ponts. Bye bye le monde toxique, bye bye la prison. L'humanité est naïve, fautive à la dérive. Ils comprennent même pas ma quête d'une vie alternative. Pendant qu'ils se noient dans leurs illusions, moi je cultive en secret mes convictions. Je cherche l'harmonie loin de leur folie, la paix intérieure dans ma mélancolie. Même isolé du monde, je garde espoir en vie. L'orphano en quête du bonheur de l'utopie. Dans ma solitude, j'ai appris à méditer, redécouvrir les choses vraies, la simplicité. Les échecs successifs m'ont peut-être façonné, mais je demeure le capitaine de ma destinée. Je lis des livres oubliés, j'écoute le silence, j'apprends à me connaître, à me faire confiance. Loin des jugements constants et des modes éphémères, je construis mon bonheur sur des bases sincères. Parfois, je me sens coupable de m'être isolé, mais comment rester pur dans un monde souillé? Mon âme d'artiste refuse les compromissions, je préfère l'authenticité aux fausses transactions. Je cherche l'harmonie loin de leur folie, la paix intérieure dans ma mélancolie. Même isolé du monde, je garde espoir en vie. L'orphanou en quête du bonheur de l'utopie. Aujourd'hui, je commence à voir la lumière. Ma retraite du monde m'a permis de me parfaire. Je comprends qu'il faut changer le monde de l'intérieur. Commencer par soi-même avant de blâmer l'extérieur. Mon rap devient prière, mes mots deviennent bombes. Pour tous les égarés qui cherchent un autre royaume. Peut-être qu'un jour je sortirai de ma tanière pour partager ma paix et ma lumière. Cette quête d'harmonie, c'est mon combat personnel. Transformer ma colère en quelque chose d'éternel. L'orphan ou l'ermite devient sage et patient, cultivant l'espoir d'un monde différent. J'ai trouvé l'harmonie loin de leur folie, la paix intérieure dans ma philosophie. Après l'orage vient toujours une éclaircie, l'orphanou renaît porteur d'utopie.
Ma traversée
de Zoumana Kone
sur Dissonance.
Et la première présentation en public de ce livre, ce sera symbole fort et qui lui tenait à cœur, devant les éducatrices du centre d'accueil de l'Anse du Lac et les jeunes exilés fraîchement accueillis en Aveyron.
Écoute, échange, rire et émotion.
Bonjour à tous, je m'appelle Zoumana et c'est un honneur pour moi de présenter ce livre avec vous parce que d'ailleurs j'étais ici et ça fait vraiment plaisir de vous raconter un peu l'histoire du livre. Je m'appelle Zoumana Kone. Je suis ivoirien.
Bonjour Zoumana.
Bonjour.
Est-ce que tu es auteur ou est-ce que tu as un autre métier aussi?
D'abord, j'ai un CAP en aluminium. Maintenant, je ne travaille plus dans l'aluminium, mais je travaille dans la tannerie.
Bonjour. Quand est venue l'idée d'écrire ce livre?
L'idée du livre est née ici, au lac, juste derrière là. Bon, c'est les difficultés. En fait, chez nous, on a du mal à aller... avoir des psychologues, d'ailleurs il n'y en a pas. Et nous, dis tes problèmes aux autres un peu, c'est un peu comme si tu n'es pas trop responsable, donc tes problèmes, c'est toi, tu les gardes pour toi. Et j'avais du mal à m'ouvrir et ça m'empêchait souvent de dormir. Je cogitais. Et une fois, un jour, il y a mon éducatrice que je salue d'ailleurs, Morgane, qui était ici, qui m'a appelé. On faisait une fête juste derrière là. C'était pendant les fêtes de Noël, je crois. Et elle m'a trouvé que j'étais un peu timide et voilà. Parce qu'elle me connaissait avant, vu que j'avais beaucoup d'énergie. Et puis d'un moment à l'autre, je me suis replié sur moi. Elle m'a dit, si tu as des trucs à dire, tu le dis. Bon, j'ai expliqué un peu. Elle m'a dit, bon, vu que tu ne veux pas en parler, mets le un bout de papier. C'était pendant le Covid. Je suis rentré chez moi et j'ai pris un bout de papier. J'ai commencé à écrire. C'est de là que tout est parti.
En quelle année tu es arrivé à... ici?
Je suis arrivé ici en 2000, en France ou
en
2019.
Où es-tu passé pour venir à Libye?
Je suis passé par la Tunisie.
Mais tu es arrivé comment au Libye? Parce qu'il y a des guerres.
Il y a des passeurs. On suivait les pistes. C'est comme ça que nous sommes arrivés. D'ailleurs, on connaissait. Bon, on partait. La ville, parce que j'ai travaillé un peu à la frontière, j'ai fait de la maçonnerie. Et vu qu'on voulait s'échapper, on a décidé de rentrer en Libye parce que Libye était plus proche d'Italie. Quoi. Donc on a traversé le Sahara, pas le Sahara, mais le désert.
C'est un peu compliqué, quoi. Parce qu'il y a des guerres. Première fois, il y a des guerres. Deuxième fois, il y a les frontières, là, il va tout contrôler. Donc, comment tu passes?
Il y a des pistes et il y a des moments idéaux pour, voilà, pour s'échapper aux gardes frontaliers. Voilà. Donc, avec les passés, ils connaissent toutes ces pistes. Nous, on n'est que des suiveurs. Voilà.
Bon, moi, j'aimerais demander à l'auteur, est-ce que c'était nécessaire de prendre ces risques pour venir? Est-ce que c'était important, c'était vraiment urgent de traverser ces genres de pays comme la Libye, la Tunisie? Pourquoi ne pas faire demi-tour?
Merci beaucoup pour ta question. C'est comme si tu as eu une embarcation et l'embarcation est brûlée. Tu n'as pas le choix de faire marche arrière, quoi. Voilà, si je trouvais que traverser, c'était encore le moment pour moi de m'échapper que de me retourner. Parce que me retourner, c'était certainement que j'allais mourir. Parce que le Sahara, le désert, parce que j'avais plus de transport, tu n'as plus de transport pour te retourner. Et chaque mois passé en Tunisie, il y a des frais que tu dois payer. C'est-à-dire aujourd'hui, tu fais 2 ans en Tunisie, tu es là à l'aéroport. Il y a des pénalités exactement à payer. Donc, je n'avais pas d'argent pour payer des pénalités pendant 2 ans. 2 ans dans un pays que tu pouvais calculer. Ça fait 24 mois de pénalités déjà. Donc, je ne pouvais pas. Il fallait repasser par le Sahara, passer par le Burkina. Et ça, c'était la mort certaine. Raison pour laquelle je me suis dit, voilà, j'étais avec des copains, on s'est conseillé et on a décidé de traverser. Voilà. Au moins, je peux mourir dans la mer. Mais si j'arrive à m'en sortir, ça sera encore plus mieux.
Est-ce que dans ce livre, l'auteur cherche à informer ou à divertir ses lecteurs?
C'est pas pour divertir, c'est juste une prise de conscience et dire à tout le monde que être migrant, c'est chaque personne que vous voyez ici, chaque visage ici, derrière chaque visage, il y a une histoire. Et c'est très important d'en parler. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à en parler, comme je disais souvent. Il y a certains qui ont vécu plus que moi ici. D'ailleurs, je le sais, parce qu'entre nous, on se parle. Moi, je suis passé par... J'ai pris un avion. Et celui qui est passé par le Mali, le Burkina, le disait, c'est différent. Mais ils n'arrivent pas à en parler, tu vois. Ils n'arrivent pas à en parler. Donc, c'est comme si je suis, comme on le dit, la voix des sans-voix, la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche, quoi. Voilà, j'essaie d'interpeller aux gens pour dire que ces gens-là, ne les négligez pas, ils ont une histoire et souvent ils veulent en parler, mais ils n'arrivent pas à en parler. Donc c'est l'occasion aussi, c'est une prise de conscience en fait, et de dire aussi à ceux qui viennent, de respecter aussi ceux qui sont ici, et ne pas en griffe indexer tout le monde pour dire « ouais, on ne nous aime pas, on ne nous aime pas ». Déjà quand tu viens dans un pays, c'est à toi de t'adapter, c'est pas au pays de t'adapter à toi, mais c'est à toi de t'adapter au pays. Donc c'est une prise de conscience, c'est voilà, c'est pas une évasion.
Bonjour Zoumana.
Bonjour.
Je m'appelle Aïdara Kalilou. Et je voulais te demander une question. Quels arts de bateaux tu as pris?
Comment on peut appeler ça? C'est des bateaux... Bon, on appelle ça des bateaux de fortune. C'est des bateaux fabriqués dans ces pays-là. Bon, je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est un bateau en bois. Dans le livre, c'est écrit, on a écrit zodiaque, mais c'est un bateau en bois. Voilà. Voilà. C'est pas pirogue en tant que pirogue, il faut ramer, mais c'est un bateau à moteur, quoi, je veux dire. Ouais, d'ailleurs, c'est un bateau de pêche. Voilà.
Merci Zoumana pour répondre à ma question.
Si c'était à refaire, tu pourras refaire ou t'allais abandonner le projet de traverser?
Si c'était à refaire, j'allais le refaire parce que aujourd'hui, grâce à ce voyage, lorsque je me suis retourné l'année dernière, j'ai vu ma mère. Peut-être grâce à ce voyage, aujourd'hui, elle vit quoi. Parce que depuis, je suis arrivé ici, même l'argent de poche qu'on nous donnait ici au centre. Je n'utilisais même pas. J'ai gardé cet argent de poche pour l'envoyer pour qu'elle puisse soigner, pour qu'elle puisse, comment on appelle, payer ses ordonnances. Donc, je me dis, quelque part, j'allais le refaire pour elle. Voilà. Mais pour moi, on est tous heureux ce soir. Pour voir la famille, être avec la famille, c'est encore plus meilleur. Mais du moment où tu arrives à. C'est une fierté chez nous. Genre, te battre pour aider ta mère, tes frères, c'est une fierté, cette responsabilité, je pense que si c'était à refaire, j'allais le refaire. Aujourd'hui, j'y vais, ils sont fiers de moi, ils ont su que je me suis caché, j'ai fait, je me suis caché, mais grâce à cette cachette, et je me suis caché pour ne pas les en parler et m'aventurer. Mais ce n'est pas pour moi, mais déjà, c'est pour la famille. Je l'ai fait pour ma famille.
Moi, j'ai passé à Mauritanie, moi je ne connais pas là-bas, mais ils ont dit, quelqu'un qui, ils ont dit, si les contrôles qui a attrapé, tu vas aller aux prisons. si tu es allé au prison, il n'y a pas de moyens pour... Comment tu veux faire comment? Parce que s'il n'y a pas de moyens, tu ne peux pas sortir avec la prison. Il faut payer, sinon tu ne peux pas sortir. Mais si toi, il n'y a pas de moyens, donc tu veux faire comment? Tu peux mourir avec casson et avec prison.
C'est ça. Oui. Bon, je vais dire ma chance, c'est... Mon père est musulman. Donc depuis l'enfance, mon père, il prie à la maison. Voilà, ma mère est chrétienne. Donc, les quelques mots arabes, c'est-à-dire bonjour, bonsoir, comment tu vas, tu vois. J'ai mémorisé quelques mots, donc je peux en parler. C'est pas des prisons en tant que telles. Quand on te dit en prison, perso, ce que j'ai vécu, je sais pas pour les autres, je sais pas. Mais c'est pas des prisons en tant que telles. Mais c'est des, bunkers ou des sous-sols, on vous garde, tu vois. Voilà. Et c'est comme ça, je ne sais pas comment rejoindre mes parents, ma famille, tout et tout. Comme tu l'as dit, on t'attrape, on te dit, donne tes sommes pour qu'on te libère. Mais vu que moi, avec ceux que j'étais, il y a beaucoup qui ne parlaient pas français. Il y a beaucoup qui ne parlaient pas quelques mots arabes. Bon, moi, je me suis trouvé comme quelqu'un qui pouvait traduire pour eux. Donc, lorsqu'il arrive, d'ailleurs, lui aussi, il ne comprend pas français. Donc, du fait que j'arrivais à traduire, donc j'étais comme, soi-disant... le narrateur pour eux. Donc ils ont
le traducteur
donc ils se sont dit bon, lui on a encore besoin de lui tant qu'il est là, voilà. Et c'est comme ça, ils m'ont fait confiance. Un jour ils m'ont envoyé de l'âge de la cigarette et je suis plus revenu.
Zoumana, je voulais vous poser une question. Vu vos discours, vous avez dit tout à l'heure que si c'était à refaire, tu allais refaire. Et quand tu t'es retenu au pays, tu as vu tes parents et tu as pu donner quelque chose à tes parents, le sourire, l'amour, les trucs comme ça, financer, les trucs comme ça. Je veux dire que quand tu veux dire ça, tu veux encourager les Africains à traverser ou tu veux du quoi? Vu que toi, tu es venu, ça va chez toi. Les autres, ils vont dire, ben, Zoumana a été et moi aussi, je prends la route. Puisque Zoumana a été, qu'est-ce que tu veux passer dans ton livre? Quel message tu veux passer au juste?
Quand je parle de moi, je parle de moi personnellement, mais dans le livre, c'est écrit aussi les aléas de la route. C'est-à-dire ceux qui rentrent ici, ceux qui meurent sont plus nombreux que ceux qui rentrent, soyons clairs. Voilà. Donc, ça, quand tu décides, voilà, soit tu acceptes de mourir ou de vivre. Donc, aujourd'hui, moi, je me dis, je ne conseille pas les gens de passer, mais c'est une manière de dire que si tu n'as rien, t'as rien chez toi, tu sais pas quoi faire et tu t'engages à traverser. Tu peux mourir, mais tu peux aussi avoir la vie sauve. Et si tu as la vie sauve, tu l'as fait pour un but. Et ça, faut jamais l'oublier. Et ce but-là, aujourd'hui, moi, je me suis en sorti. Donc, je suis fier de traverser. Mais je le fais pas pour dire aux autres de passer, mais franchement, je suis fier d'être parmi ceux qui ont réussi à traverser. Mais on n'a pas toutes les mêmes chances. Il y a certains, ils ont tout. Ils ont la pleine vie et qui arrivent à rester dedans. Moi, c'est des problèmes qui m'ont mené à traverser. Il y a certains, je le dis, on n'a pas tous les mêmes problèmes. Moi, si j'étais heureux, de la manière dans le livre, c'était écrit où mes parents, tout, ça allait bien. Je ne pensais pas à traverser. C'est parce que derrière n'allait pas que j'ai décidé de traverser.
Quand il a traversé, il a été en Italie. En Italie, on ne te prend pas directement pour t'amener en France.
Non.
On te prend, te met dans le foyer en Italie. Mais pourquoi il a choisi de quitter l'Italie pour venir?
D'accord.
C'est très simple. Je ne comprenais pas d'abord italien. Je ne sais pas parler italien. C'est compliqué. Déjà, à la base, en Côte d'Ivoire, on parle français. J'étais à l'école. Et dès que je suis arrivé en Italie, j'ai croisé un Camerounais qui parlait bien le français, qui a ses parents à Paris. Et vu que j'avais personne à appeler, c'est écrit dans le livre, on a des tickets pour appeler votre famille pour leur dire que vous êtes arrivé. Ouais. Vu que j'avais, je ne sais pas qui a appelé, je lui ai donné le ticket. Il était tellement content, il m'a dit ok, et on est devenu des potes. Lorsque son frère l'amène l'argent pour qu'il rentre à Paris, j'ai décidé de rentrer avec lui vu que je ne comprenais rien. Voilà, c'est juste à cause de la langue, de un, à cause de la langue, de deux, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui peut m'amener, qui peut m'aider à traverser, à rentrer en France.
Pour moi, en tout cas, je te félicite d'avoir fait écrit un livre, quoi. Et d'être la voix des sans voix. Et Maintenant, nous qui sommes au foyer ici actuellement, quel conseil peux-tu nous donner comme ça?
Comme j'ai toujours dit, c'est la cohésion. Respectez vos éducatrices. Peu importe ce qui va se passer, respectez vos éducatrices. Aujourd'hui, c'est un bon thème avec toutes ces éducatrices. Ça n'est pas dit qu'on ne se rentrait pas souvent, on s'engueulait souvent. Mais restez toujours en bonne relation avec vos éducatrices. Parce que ça va vous servir. C'est pas parce que vous ne partagez pas les mêmes manières de choses. C'est normal parce qu'on n'a pas les mêmes paradigmes. On a ta culture, elle a sa culture, ils ont leur culture. Quand ça, au début, ça, vous n'allez pas vous comprendre. Mais c'est d'accepter que l'autre aussi a une idée qui est différente de la mienne. Voilà, elle aussi, oui, ou il aussi va accepter que tu es différent. Et c'est ce qui fait qu'on vit ensemble. C'est cet homme différent d'ethnie, cette différence de culture qui est une richesse pour moi. Et ces éducatrices sont respectées forcément. Parce que se réveiller à 6 heures du matin ou à 7 heures, aller accompagner, vous accompagner, faire en sorte que vous puissiez avoir vos papiers, c'est pas facile. Moi aussi, on me laissait seul sans éducatrice. Pour être clair avec toi, aujourd'hui, ce n'est pas là. Ce livre n'allait pas voir le jour. Tu vois, de nos jours, il faut quelqu'un pour t'aider. Et celui qui t'a aidé, il ne faut pas lui lancer la pierre. Il ne faut pas lui lancer la pierre. Peu importe ce qui va se passer, respectez vos éducatrices et respectez tout le monde. Ça va vous aider. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on ne partage pas les mêmes opinions que ouais, je m'en fous, tu t'en fous pas. Je me suis fait seul. Je pense que ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas vous faire seul. Si vous pouvez vous faire seul, vous ne serez pas ici.
Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu as quitté en Côte d'Ivoire et venu ici. La raison pour laquelle tu as quitté la Côte d'Ivoire.
L'intention, ce n'était pas de quitter la Côte d'Ivoire. C'est ma mère, bon, nous, en, ma famille, c'est une grande famille. Je vous rappelle que mon père, il a 18 enfants.
Oh,
18 enfants avec 4 femmes. Et lorsque en Afrique, et les 18 enfants, je vous assure, les 4 femmes dans la même maison. Et ma mère, c'est la première. Donc, les plus jeunes étaient encore plus favorisés et ma mère était délaissée. Ma mère était souvent battue. Et moi, on ne supportait pas. Donc, ma mère fallait travailler pour nous nourrir tous. Donc, on était tous petits et voilà, on avait des rêves, mais vu qu'il fallait que la maman travaille pour nous scolariser, tout et tout, elle ne pouvait pas. Donc, après, elle est tombée malade. Je ne sais pas ici, je ne sais pas si chez vous, vous connaissez le bafon. On fait le riz dans le bas-fond, tu peux rentrer, ça va t'arriver là. Donc, passer tout un an dans la boue, donc je pense qu'elle a pris une maladie et elle ne pouvait plus se redresser. Et elle était souvent battue, mais dehors. Donc, moi, je ne pouvais pas supporter. J'ai arrêté les études juste pour, voilà. Donc, j'ai croisé une personne comme ça. Lorsque j'ai fait du commerce ambulant, vendais portable, tout ce que je trouvais, je vendais. Et c'est comme ça que j'ai croisé un monsieur qui m'a dit. Et il m'a dit, ouais, moi, j'ai un enfant chez moi, tu viens, tu l'apprends à écrire tout et tout, il fait CP2. Et voilà. Donc, il me donnait un peu de thunes, quoi. Et c'est un jour, il m'a dit, ça ne suffit pas, mais je pourrais te dire qu'il y a un monsieur, j'ai un cousin en Tunisie, là-bas, tu travailles, c'est par semaine, tu es payé. Tu vas en Tunisie, tu travailles. 6 mois après, un an après, tu pourras soigner ta mère. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. C'est là que j'ai quitté la Côte d'Ivoire.
Est-ce que ça t'a fait du bien d'écrire ton histoire?
Ça m'a fait vraiment du bien. Pour moi, c'est une thérapie, en fait. Depuis que j'ai commencé à écrire, ça m'a, comme on le dit chez nous, ça m'a apaisé. Ça m'a soulagé le fait de, je ne sais pas comment on dit, on fait des collections de timbres, t'as tellement accumulé des trucs. Quoi. Mais quand j'ai commencé à mettre tout sur un bout de papier, ça m'a allégé, franchement. Ça fait vraiment plaisir et ça m'a beaucoup aidé psychologiquement. Ça m'a aidé. Il faut dire que d'abord, c'était pas un livre commercial, c'était pas un but lucratif. Bon, ça arrivait, on sait, voilà. Sinon, c'était pas écrit à Levana, c'était pas le but. Donc, c'était un truc personnel, quoi. Bon, le fait de le publier, qu'ils ont accepté aussi, je pense que ça va pouvoir aider d'autres aussi à écrire, à dire que, ouais, moi aussi, comme on le disait, un littéraire américain qui disait que tant que les lapins n'ont pas d'histoire, ils ne racontent pas le soleil, ça c'est toujours raconté par les chasseurs. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir parler, écrire, dire aux autres que tout ce qu'ils disent, par les médias,
ils n'ont pas vécu. Voilà, ils extrapolent, ils disent ce qu'ils veulent. Ou soit un immigrant a fait quelque chose qui n'est pas bien, ouais. Mais c'est pas tout le monde, quoi. C'est comme ici en France, tu crois des bonnes personnes, tu crois des... Comme je l'ai dit, dans chaque village, dans chaque campement, je me suis fait des amis. Et c'est ça le plus important. Le côté négatif, ouais, c'est pas mon truc. C'est bien, c'est, souvent ça affecte, mais il faut avoir le mental, il faut suivre ton objectif. Ouais, et dire que... Parce qu'on n'est jamais parfait, quoi. Toi aussi, tu fais, tu fais du mal aux autres, ouais, sans te rendre compte. Donc c'est le plus important.
Est-ce que tu as du projet pour d'autres livres, pour écrire d'autres livres?
Si c'est possible, peut-être. Maintenant, j'ai pris goût, j'écris souvent. Je rentre le soir, j'écris ma journée et je commence à prendre plaisir. Je sors là, je vois le lac. Ça me donne envie d'écrire quelque chose. À la base, mais je ne sais pas manipuler l'ordinateur, donc c'est ça mon problème. Donc quand je rentre, j'écris des trucs. Toute la journée, peut-être, voilà. C'est positif, négatif, j'écris. Peut-être un jour, on ne sait jamais. Et si je l'écris, peut-être, même si ce n'est pas publié, au moins, j'écris quelque chose le soir. Souvent, je tourne dans mes trucs. Ah, ça, c'est moi, je l'avais écrit. Waouh, ouais. Ça me fait du bien. Donc, je ne veux pas arrêter d'écrire. Parce que je pense que, bon, à la base, j'aime lire, j'aime écrire. Voilà. En tout cas, les maths, je n'aime pas. Donc, ça va, j'écris. Voilà.
Les éducatrices, vous n'avez pas de questions ou quoi?
Très bien. Aujourd'hui, tu es du coup sorti depuis quelques années maintenant. On peut dire que tu fais partie un peu de... de l'histoire. Effectivement, c'est beaucoup d'émotions parce qu'on a grandi, on a construit ce centre. Parce qu'effectivement, tu fais partie de cette histoire. Et quand on a ouvert, quand on a créé, quand on a commencé à construire, eh bien, on était des bébés, nous aussi. C'est-à-dire qu'on ne savait pas. On tâtonnait, on se disait, bon, alors, on va peut-être faire comme ça. Bon, non, on va peut-être plus faire comme ça. On va leur demander. Ah non, si on leur demande, oh, c'est la panique. Tout le monde s'engueule, on n'arrivait pas. Et puis au final, on a évolué, on a changé, on a essayé. Et je trouve que ces années plus tard, que tu viennes témoigner, nous expliquer, et que tu aies ce discours-là de dire, effectivement, on est là pour vous aider. Tu nous dis merci sur ça. Je trouve ça, c'est l'aboutissement en fait. C'est pour ça que ça m'émeut beaucoup parce que effectivement, on a mis beaucoup d'énergie. Et pour vous aussi, et qu'on ait ce retour aujourd'hui, ça, c'est une richesse aussi pour nous, en fait. On est des professionnels, certes, c'est vrai, avec un cadre, avec un centre, avec un financement, avec des règles, avec une équipe, bien évidemment. Mais notre intérêt premier, c'est bien, avant tout et contre tout, que ben, vous puissiez arriver comme toi à aller à construire ce chemin et à vous en sortir, à être complètement autonome, à revenir nous voir, à nous expliquer ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, le festival, tout le monde revient, on se rencontre. Voilà, c'est qu'une histoire de rencontre qui ne s'arrête pas. Mais pour moi, tu étais un des premiers et effectivement, tu incarnes un peu ça. Cette histoire-là, cette naissance de ce foyer, qui un jour, j'espère, continuera longtemps, et bien après nous, bien après ce qu'on a construit. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, il y a eu la première équipe éducative, Charlène est là, Patricia est toujours là, et puis l'équipe s'est renouvelée aussi. Mais la force, elle est toujours présente. Bon, merci.
C'est émouvant quand je vois ça. Ça fait... Moi, j'ai toujours dit souvent aux autres, souvent en parlant entre nous, hein, entre nous les jeunes, on se voit, ouais, cette éducatrice, celle-ci. Ouais, mais c'est vrai, il faut en parler, ouais. Et on a tous nos caractères, on a tous nos comportements, effectivement. Et j'ai dit une fois que ces éducatrices ne sont pas là pour de l'argent, parce que, voilà, être éducatrice, tu gagnes combien? Si c'est, tu le fais par amour, parce que tu veux aider. Et c'est ça le plus important, quand tu vois une éducatrice aider. Tous tes papiers, tout et tout, c'est pas pour avoir 3 000 euros à la fin du mois. Tu vois, elle le fait parce que elle a un cœur. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas dire, ouais, parce que, ouais, ouais, elles sont là, parce qu'on on leur donne de l'argent. Non. C'est parce, elle le fait parce qu'elle a un cœur. Elle a des enfants à la maison, elle les laisse à la maison, elle prend sa voiture pour avoir un accident, pour avoir ceci. Elle vient pour toi. C'est ça qu'il faut penser. C'est ça qu'il faut penser. Et attention à tout ce qui sort de la bouche. Il faut toujours le respect. Même peut-être, ouais, les jeunes, ouais, du respect. Chez nous, en Afrique, tu ne peux pas parler à... Mais ton grand frère qui est plus âgé que toi, je me rappelle, mon grand frère, lorsqu'il s'est marié, 2 ans, il avait 4 enfants, je lui dis, ah, oh, mais tu fais trop d'enfants, tu ne connais pas le planning familial. Ils m'ont convoqué à la maison, on dit, on ne dit pas ça au grand frère, toi. Ça ne se dit pas chez nous. Si, voilà, c'est comme ça, l'éducatrice, respectez vos éducatrices. Mais franchement, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, je sors, je vais quelque part, il y a des éducatrices de Mio, pas intérimaires, qui sont venus ici, qu'on se voit. Ah, oh, Zoumana, c'est toi, Zoumana, ouais. Imaginons une fois si on s'était embrouillé, Charlène, elle vient à Mio, on boit un coup. Moi, j'ai fait des conneries ici. Ils le savent. Oh, mais oui, mais...
Ne le dis pas.
Oui, mais ils le savent. Mais c'est parce qu'ils savent que ça peut arriver et ils t'acceptent malgré que tu fais des conneries. Et donc, franchement, respecter les éducateurs, le respect, c'est fondamental. Merci beaucoup, Lou, merci pour tout. Pour ces nuits blanches. Ouais, effectivement.
Zoumana, il remercie les éducatrices, le centre, etc. Et d'ailleurs, dans son livre, il remercie plein de gens qu'il a croisés et plein de rencontres. Mais je pense que là, ce qu'on a tous envie de lui dire, c'est merci à lui. Alors, d'avoir partagé son histoire, oui, mais d'avoir cette humanité et d'être capable de... Voilà, malgré tout ce qu'il a traversé, de continuer à faire confiance aux êtres humains et aux gens qui croisent sur sa route. Et voilà, moi, je trouve que c'est ça ce qui est le plus beau dans ce livre, en fait. Moi, j'ai trouvé que dans la force de ton écriture et de ton récit, c'est que là, tu viens de dire, voilà, les migrants ne sont pas, comme on dit, tous pareils, comme on dit dans les médias. Et en fait, je trouve que toi... tu fais la même chose, c'est-à-dire que tu parles de ce qui t'est arrivé en Tunisie, etc., en disant bien, tous les Tunisiens ne sont pas comme ça. Voilà, tous les... On sent que pour autant, tu ne mets pas les gens dans des cases, tous les Blancs ne sont pas comme ça, tous les Tunisiens ne sont pas comme ça, tous les... Et c'est là où, du coup, ça donne de la valeur à ton discours, parce que tu ne rentres pas dans ce truc de... Voilà, de mettre les gens dans des cases, et voilà, pas parce que leur origine, ou parce que, voilà, ils sont de telle ou telle manière... Et du coup, je trouve que ça donne du crédit, en fait, à ton discours, quoi. Parce que c'est trop facile de tomber dans... voilà, on peut aussi tomber dans l'inverse, c'est-à-dire, voilà, nous, on est des victimes et les autres, c'est les méchants, mais toi, t'es pas du tout là-dedans, et c'est ce que je trouve hyper fort, en fait.
Eh bien, merci, Zoumana, de nous avoir présenté ton livre, de nous avoir parlé de ton histoire. C'était un plaisir de te revoir. Ça a fait couler quelques larmes. Et ça nous a fait rire aussi, quand tu as raconté des bêtises. Merci beaucoup.
Ce livre, Ma traversée, de Zoumana Kone, publié aux éditions Champ d'Ortie, est en vente dans toutes les librairies.
Vous pouvez aussi vous le procurer sans aucun frais de port en le commandant directement auprès de l'éditeur champdortie.free.fr, tout en minuscules, champ au singulier, ortie au pluriel, pas d'espace, pas d'apostrophe.
Et avant de se quitter, on écoute Laurent Garraud, le directeur du site Lance du Lac, où Zoumana Kone a été accueilli adolescent en 2019 à son arrivée en France.
La vie, elle n'est pas ici, la vie pour eux, elle est forcément à l'extérieur. Donc c'est chouette quand on se dit, là ça y est, le jeune il est arrivé au bout de ce qu'on peut lui apporter ici, et il va prendre un appartement, voler de ses propres ailes, etc. C'est chouette, et après en fonction des jeunes qu'on a pu avoir, et selon la relation qu'on avait avec eux, pour certains on avait des relations régulières, etc., et pour d'autres, beaucoup moins. Voilà, on n'est pas obligé non plus, et eux non plus, d'être en discussion régulière. Mais Zoumana, c'est l'un des seuls jeunes avec lequel je suis encore en contact 3 ans après son départ. Je l'ai revu plusieurs fois, puisque maintenant qu'il a une voiture, il passe de temps en temps à Pontsalar. Mais quand je lis maintenant son livre dans lequel je me dis, voilà, écrire quelque chose qui semble lui plaire, Je trouve dommage pour lui qu'il n'ait pas réussi à se dire ouais, bon, je trouve un job parce qu'il faut que je vive, mais j'ai envie de faire autre chose, je veux faire des études, je veux faire, j'en sais rien, du droit, de la philo, ou peu importe quoi, mais pour m'élever encore un peu, parce que il y a quand même un jeune qui, malgré toutes les difficultés qu'il a pu avoir, il a une philosophie personnelle qui fait que, ok, c'est vraiment galère, ouais, mais à côté de ça, il y a quand même des trucs qui sont vraiment positifs pour moi, donc je ne retiens que les côtés positifs. Non, vraiment, j'ai découvert ce parcours, parce que moi le premier, et mes collègues, je pense également, ne questionnent pas les jeunes sur leur parcours. Ce sont les jeunes qui viennent vers nous éventuellement pour dire des choses s'ils en ont envie. Mais là, lire son parcours, c'est un parcours personnel, donc c'est assez compliqué de se dire que je peux accéder à un pan de sa vie qu'il n'avait pas souhaité partager à ce moment-là. Maintenant, c'est lui qui a fait le choix de l'écrire, donc j'ai un peu moins de, comment dire, un peu moins de retenue à me dire, ouais, je peux lire ça, parce que c'est lui qui a choisi de le partager avec nous tous. Mais quand même, voilà, c'est au départ, ça me semblait un peu compliqué de me dire de voir, de lire un parcours aussi personnel, de lire ta vie, tout simplement, parce qu'il raconte quand même une partie de sa vie. C'était pas simple, mais en même temps, ça permet de le découvrir un peu plus, et je trouve ça vraiment très bien pour lui, et notamment la première phrase qui est « Il est grand temps que nous-mêmes, les réfugiés et les migrants, nous racontions notre histoire au lieu de la laisser raconter par d'autres ». Et je trouve que ça, c'est rien que ça, c'est déjà hyper fort, et ça prouve à quel point Zoumana, il a une réflexion vraiment importante sur la vie en général.
Réalisation
Dany Joulier,
Joseph Hula. Production Dissonance.
Avec la participation de Zoumana Koné, Franck Carrière, Béatrice Guillemard, Fred Maurice, Nald Kib, Françoise Garot, Laurie Ponce, Charlène Falguière, Marion Poujol et Laurent Garot. Salut
et fraternité.
Soledad tengo de ti, tierras donde yo nací. Soledad muriese sin ventura, sepultenme en alta sierra. Soledad tengo de ti, tierras donde yo nací. Soledad tengo de ti,
que no extrañé la tierra, mi cuerpo en la sepultura.
Soledad tengo de ti, tierras donde yo nací.
Soledad tengo de ti, tierras donde
cuerpo en la sepultura y en sierra de grande altura.
Soledad tengo de ti, tierras donde yo nací.
Soledad tengo de ti,
tierras donde
yo nací.